Utopod 013, 10 novembre 2007, l'homme immobile de Philippe Curval. Bonjour à tous et bienvenue dans Utopod. Chacun de nos épisodes est écouté en moyenne 1000 fois, et pourtant seules 300 personnes sont véritablement abonnées, ce qui démontre que beaucoup d'entre vous nous écoutent depuis le site. Nous avons donc une demande très importante à vous faire. Abonnez-vous à notre podcast via iTunes. C'est le meilleur moyen d'augmenter nos statistiques et de nous soutenir dans notre chasse aux sponsors. Notre but, commencer à rémunérer nos auteurs et nos lecteurs dès que possible. Si vous n'avez pas iTunes, téléchargez-le. Ce logiciel est gratuit, pratique et sans aucun danger pour votre ordinateur. Le texte d'aujourd'hui est de Philippe Curval et s'intitule « L'homme immobile ». Il est paru en 1984 chez De Noël dans le recueil « Debout les morts, le train fantôme entre en gare ». Philippe Curval est l'un des pères fondateurs de la science-fiction française. Né en 1929, il débute sa carrière au milieu des années 50 en publiant ses premiers textes dans la revue Fiction. Sa bibliographie s'étire sur plus d'un demi-siècle. Son travail, traduit dans 14 pays, s'est vu récompensé par le prix Jules Verne, le Grand Prix d'Imaginaire et le prix Apollo. Il est également anthologiste et chroniqueur pour le prestigieux magazine littéraire. Jeanne Ferreux, notre lectrice du jour, est une actrice suisse d'origine française. Ancienne élève de l'école romande d'art dramatique, elle débute sur les planches du théâtre populaire roman avant d'entrer à la Comédie de Genève. À côté du théâtre, elle joue pour le cinéma, fait de la radio et participe à des séries de la télévision suisse romande. Et maintenant, ôtez vos chaussures, prenez votre canne blanche et place à la littérature.
L'homme immobile. L'aveugle avançait pieds nus sur le trottoir en braille. Ses orteils sensibles auscultaient prudemment la bande codée, gravée au milieu de la voie piétonnière. Il avait besoin de vérifier sans cesse sa destination. Une heure auparavant, il s'était évadé de l'unité carcérale de bienfaisance, Lucarbe, comme certains la nommaient. Boissard, les autorités de la communauté urbaine de Parouenne ont prononcé la déchéance de votre citoyenneté. Vous en connaissez les raisons, avait déclaré le juge des années plus tôt. Cela ne s'oublie pas. En Marcom, personne ne jouit librement de son existence, s'il est infirme. À plus forte raison quand il a perdu le privilège de ses yeux. Les rubans informatisés des trottoirs n'étaient pas destinés aux aveugles, mais aux minuscules robots urbains qui patrouillaient pour secourir les humains et surveiller s'ils obéissaient aux stricts règlements de la sécurité et de la propreté. Aussi étaient-ils codés en langage binaire. Le mot braille n'était qu'une image. Julien en savait quelque chose. Lui qui avait dû l'apprendre patiemment durant les 3 premières années suivant sa déchéance civique. Tout baignait dans l'huile à l'intérieur des unités carcérales de bienfaisance. Le fuyard aurait pu citer l'intégralité des textes qui y régissaient ses jours, depuis les conditions d'hygiène jusqu'aux règles minutieuses qui déterminaient ses déplacements, ses horaires, la durée de ses conversations, ses repas, son sommeil. Personne n'avait l'occasion d'y produire le moindre remous. D'où l'impression d'y mourir à petit feu, dans le ronronnement moelleux des machines dispensatrices de confort climatisé. Julien n'avait pas pu tenir. À ce rythme doucereux, il sentait que son cerveau se vidait tout doucement. Il fondait dans le beurre. Bifurquant brusquement sur sa droite, il se dirigea vers le surmag dont il venait d'enregistrer la proximité. Pour l'instant, ce genre d'endroit lui était favorable. La présence d'un évadé en pleine rue se décelait avec tant de facilité qu'il valait mieux ne pas s'y attarder. À vrai dire, Julien Boissard se savait l'un des rares piétons à parcourir la ville désolée aux fenêtres murées. En dehors des inspecteurs de la pollution, des services de la police intérieure et de quelques marginaux en sursis de camps de rééducation psychologique, il ne s'y trouvait plus guère de passants innocents. Les voitures électriques vrombissaient doucement sous la dalle piétonnière de Parouen. L'écho d'une termitière automatisée. Dans les surmags, au contraire, où les citoyens du Marcom se rendaient encore volontiers, personne ne l'inquiéterait au sujet de ses déplacements que recouvrait un anonymat tacite. Soudain, sous les pieds de Boissard, le sol devint brûlant. Passait-il sur une plaque thermique destinée au chauffage de la ville? Improbable. Des procédés aussi primitifs étaient abandonnés depuis longtemps. Le fuyard dansa sur place une petite gigue absurde pour épargner sa peau nue. Mais ce n'était pas une solution d'avenir. Il se réfugia vers le mur où la température du trottoir était moins élevée. Puis accéléra progressivement l'allure, laissant sa main errer sur la façade, aveugle comme lui, en guise de fil d'Ariane. C'était la première fois qu'il se lançait ainsi sans aide depuis qu'il avait perdu la vue. Quelques centaines de mètres plus loin, il stoppa net, éperdu de terreur. Comment poursuivre sa route au sein de ce tunnel vertigineux, interminablement sombre, que créait sa course? Julien Boissard s'accota contre la paroi de béton et respira longuement pour exorciser sa panique. Le sol était à nouveau frais. Le gouvernement secret avait raison de mettre des ucarbes à la disposition d'assister comme lui, mais, d'après la rumeur, il se trouvait quelquefois le jouet de surveillants sadiques qui cherchaient à les faire craquer. Était-ce pourquoi il se sentait si faible? Tâtonnant de la plante des pieds, il regagna la bande d'information binaire. Aussitôt, Julien eut l'impression que le relief codé, sondé par ses orteils, remontait en série de bits le long de sa colonne vertébrale pour atteindre son cerveau. 337 degrés rue Ouest, à 100 mètres, carrefour longitude 24, température 23 degrés centigrades, vent nul, humidité relative 57%, fréquentation de la circulation 0,1%. Assurez-vous que les genoulières des passants sont situées à hauteur réglementaire, que leurs casques de protection ne se sont pas déplacés. Déterminez leurs facteurs de pollution et conduisez-les au prochain poste de salubrité s'ils ne se sont pas lavés dans les 6 heures précédentes. Le conseil municipal de Parouen se souciait à l'évidence de la tranquillité et de l'hygiène de ses concitoyens. À mesure qu'il avançait, Julien Boissard recevait d'autres recommandations concernant les consignes à suivre en cas de croisement de piétons sur le même trottoir. Un efficace argumentaire de dissuasion lui était fourni afin de les éviter à rejoindre au plus tôt les circuits autoroutiers. La liste des lieux publics situés dans un rayon proche, destinée à renseigner tout citoyen requérant l'assistance des robots urbains, défilait dans sa tête. Restaurants, magasins, points de loisirs, etc. Traversant la rue en diagonale, pour entrer dans le surmag qui lui faisait face, Julien abandonna sa banque de données, l'oreille aux aguets. Son ouïe s'était aiguisée depuis son infirmité au point de devenir sensible au plus subtil frémissement de l'air, aux palpitations de son cœur. Considérant l'espace à la manière d'un sous-ensemble de vibrations cohérentes, il était capable d'analyser les rumeurs, de séparer les différentes sources sonores et de les interpréter. Pourtant, cette aptitude lui jouait parfois des tours. Son imagination auditive s'était développée en même temps que son extraordinaire faculté de comprendre l'univers des sons. En reconnaissant soudain le bruit familier d'un moteur électrique, d'abord, il ne se hâta pas. Tant l'approche d'un véhicule automobile à ce niveau semblait anodine. Puis, son sang se glaça. Et si c'était une patrouille envoyée pour le capturer? Il pressa le pas pour se mettre à l'abri du surmag. Crissement douloureux des pneus sur la chaussée, vent chaud, huileux, en rafale, hurlement. Son cœur bondit à 120 pulsations minutes. Ses jambes fléchirent subitement molles.
« Veuillez décliner votre identité !»
Julien s'affola et plongea en avant dans le sens opposé à celui de la voiture. Il frôla un corps, en bouscula un autre. Déséquilibré, après quelques sauts en voltige, il se rétablit par miracle et fonça droit devant lui, sans se soucier des risques qu'il prenait. Bizarrement, ceux qui venaient de l'interpeller abandonnèrent la poursuite. Il s'arrêta, haletant, et hurla par défi « Je suis Julien Boissard ! Julien Boissard ! Je suis Julien Boissard ! Et je viens de m'évader de Lucarbe !» Puis, se sentant abominablement fatigué, il s'effondra sur le sol. 3 ans d'inactivité forcée, malgré les stimulateurs du métabolisme, ne l'avaient pas préparé à de tels exercices. Ni sa vie au sein du Marcom, avant son accident et son internement. Entre ses collections d'objets anciens, son ordinateur ménager, sa cabine de temps ralenti, l'holovision et ses 12 heures de travail hebdomadaire à l'unité de décision culturelle, il n'avait pas eu le loisir de fortifier ses muscles, ni son esprit. À peine se souvenait-il de quelques contrariétés passagères au cours de son existence, comme l'attente d'un réparateur, l'annonce d'un surcroît d'activité professionnelle à l'occasion d'une pointe de consommation audiovisuelle, la période des élections silencieuses, les tentations sexuelles. Autrefois, derrière ces fenêtres murées, le temps s'écoulait, calme, insensible sur la ville déserte. Julien aspirait à nouveau à cette paix immobile, loin des salles cliniques de Lucarbe. Mais c'était trop tard, bien trop tard. Ce temps ne reviendrait jamais plus. Depuis qu'il avait commis l'erreur de céder aux propositions d'un clandestin et d'acheter un article de contrebande en provenance des pays voisins, Sardinias de Pages, une boîte de conserve rarissime, datant de l'époque où le Portugal n'avait pas adhéré à la communauté européenne, sans aucune garantie de sécurité. L'objet lui avait explosé aux yeux, provoquant une maladie infectieuse foudroyante. Julien avait perdu sa citoyenneté à part entière. Encore heureux qu'on ne l'ait pas condamné à la rééducation. Il était là, recroquevillé à terre, tremblant dans le décor austère de Parouen, et aspirait à se confier à la doucereuse rigueur de Lucarbe. Où étaient passés les hommes de la police intérieure? Le fuyard n'entendait pas le moindre bruit indiquant qu'il le traquait, comme si l'incident avait jailli de son imagination. Quelqu'un lui tapa sur l'épaule. Julien Boissard était pris. Son soulagement fut réel. À peine s'étonna-t-il de son brusque handicap auditif, puisqu'il n'avait pas perçu l'arrivée de l'inconnu. « Excusez-moi, monsieur Boissard, mais je dois vous rappeler qu'il n'est pas convenable de crier ainsi dans un surmag. » Ce devait être l'inspecteur commercial. Ainsi, il était entré dans le magasin sans s'en apercevoir. Les portes automatiques s'étaient ouvertes sur sa poussée. Maintenant, il était à l'abri, au cœur de la clientèle anonyme. Anonyme. Alors pourquoi cet homme connaissait-il son nom? Soudain, persuadé d'être dénoncé par l'expression de son visage aux yeux morts, il s'inquiéta. « Comment savez-vous mon nom ?»«
Enfin, monsieur Boissard, un vieux client comme vous, qui vient de décliner son identité en hurlant. Désirez-vous quelque chose de spécial ?»«
Non, non, je viens simplement fouiner. » Julien reconnaissait la voix de l'inspecteur. C'était à coup sûr par son intermédiaire qu'il avait obtenu la boîte de sardines de collection. Ce salaud continuait probablement à vendre les produits à haut risque. Si les flics l'avaient arrêté, au lieu de perdre bêtement sa trace, il leur aurait livré le bonhomme. Que faire? Même en admettant qu'il parvienne en toute impunité à serrer ses mains autour du cou du trafiquant, personne ne s'y opposerait parmi les clients du surmag,
par lâcheté. Les services robotiques de sécurité ne lui laisseraient pas le temps de l'étrangler.
En revanche, cette complicité avait des avantages. Personne ne lui demandait sa carte de crédit. Heureusement, car il en avait été privé en même temps que sa citoyenneté. Julien avança vers le rayon alimentaire. Ses pieds détectaient le chemin sur le sol de plastique mou et tiède, bien que le relief informatique n'y fût pas d'une excellente définition. Il n'osait pas mettre ses bras en avant pour se guider, de peur qu'on remarquât son infirmité. Sa poitrine et son ventre, ses genoux tremblaient de l'effort accompli par son système nerveux pour reconnaître, sans les voir, les obstacles qui auraient pu se dresser devant lui. Brutalement, il reçut un formidable coup de poing dans l'abdomen qui le laissa plier en deux sous la douleur. Julien sentit venir les larmes. « Je n'ai rien fait. J'ai simplement voulu prendre un peu d'air, juste faire un tour. » Pas le moindre écho à sa supplication. Il s'attendit à ce qu'on le saisisse, ou bien à ressentir la vibration cruelle d'un paralyseur. Rien. L'oreille à l'affût, l'évadé n'entendit que les pas furtifs de quelques chalands, peut-être soucieux d'éviter à tout prix l'incident, le scandale, l'attroupement qu'aurait pu causer son arrestation. De ce bruit de fond du surmag surgit la voix de l'inspecteur.
« Je vous ai dit que je vous avais reconnu, Boissard. Vous n'avez pas saisi mon allusion ? »
« Qu'est-ce que j'aurais dû comprendre ?»«
Que j'avais les moyens de vous protéger de l'ucarbe. Aussi efficace que vos produits de contrebande ? Passons là-dessus, voulez-vous ? » ?»«
Mais je n'ai pas les moyens de vous payer. » »«
Justement, nous voulons réparer. »
Qu'est-ce que vous proposez ?
Suivez-moi, je connais une filière. Les nocturnes vous emmèneront sur les autoroutes abandonnées. Là-bas, vous n'aurez plus rien à craindre.
C'était peut-être la solution. Julien éprouva un léger soulagement.
D'accord, guidez-moi.
L'arrachant presque du sol, l'inspecteur le reposa quelques mètres plus loin, à un endroit où la bande d'instruction binaire n'existait plus sur le revêtement plastique. Puis il le guida fermement devant lui, vers un ascenseur à gravité. Ils descendirent. Quand les portes s'ouvrirent, un terrible grondement vint frapper les oreilles sensibles de Julien Boissard. Cela ronflait, grésillait, chointait avec une telle fureur que l'angoisse le saisit, violente, au point qu'il crut s'évanouir. Une chaleur d'une extraordinaire intensité succéda au bruit. Puis, une lumière rouge si puissante qu'elle attaqua ses yeux aveugles, porta ses rétines jusqu'à l'incandescence. Julien comprit. Ce criminel l'avait conduit devant les chaudières nucléaires où se brûlaient tous les déchets du surmag. Cette fois, il se débarrasserait définitivement d'un témoin encombrant. Au moment où Julien réagit, l'inspecteur le poussa dans le brasier où il se consuma dans une intense douleur. Puis il ouvrit les yeux, détacha le casque fixé à son crâne, effaça la simulation et se renversa en arrière dans son fauteuil. Sa déception était amère. La qualité des fictions allait en se dégradant. Elle n'avait plus la cohérence nécessaire au plaisir onirique. Et surtout, les scénarios insistaient trop sur les menaces qui guettaient les habitants du Marcom, pris d'une velléité d'évasion. À part le souvenir passager de son séjour à l'unité carcérale de bienfaisance, tous les événements semblaient gratuits. Vain, terriblement peu convaincant. Mais à qui devait-il le reprocher ? Sinon à ceux de l'unité de décision culturelle qui, comme lui, appliquaient la censure du gouvernement secret à toutes les formes de la création. Par bonheur, il n'avait usé que quelques secondes de sa vie
durant cet épisode. Julien vérifia l'information sur le compteur de la cabine de temps ralenti. C'était peut-être le seul avantage des simulateurs récents. Leur rapport perception-durée avait été amélioré. Il appuya sur le bouton d'ouverture et fit rouler son fauteuil hors des parois grises du local de 2 mètres sur 2 de superficie. L'aube artificielle envahit son appartement. Il considéra avec un sentiment protecteur ses collections superbement classées de boîtes de conserve du XXe siècle et se dirigea, sans goût, vers le distributeur connecté au réseau informatisé de consommation pour vérifier l'exactitude de sa dernière livraison. Autrefois, Julien avait encore le courage d'aller faire ses courses au Surmag. Aujourd'hui, la mode de se déplacer dans Parwen avait vécu. Il devenait ridicule d'y gâcher des heures. Les 2 sachets de biscuits secs étaient là. Le paquet s'ouvrit automatiquement sur un simple effleurement de la puce. Julien croqua son sablé aux germes de blé.
Et voilà, messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. Quelques annonces maintenant. Signalons la publication, coup sur coup, de 3 nouveaux ouvrages dans la collection Les Trois Souhaits des éditions ActuSF. Tout d'abord Cendre, recueil de Thierry Dirolo, auteur délicieusement sombre, publié notamment au Bélial et chez Folio SF. Puis un autre recueil de nouvelles, Le Miroir aux Éperluettes, de Sid Villainé, 3 fois lauréate du prix René Henné, ainsi que du Grand Prix de l'Imaginaire 2007. Et enfin l'anthologie Appel d'air, réunissant des textes de 30 des plus grands auteurs francophones actuels qui s'interrogent sur le futur de la France au lendemain des élections présidentielles. Dans un autre registre, félicitons Mauvais Genre, l'excellentissime émission radiophonique de François Angelier consacrée à la science-fiction, au polar, au gore, à la BD, aux productions transgenres, bref, à tout ce qui dérange et qui fait du bien par où ça passe. L'émission a récemment fêté ses 10 ans d'existence. Joyeux anniversaire! Je rappelle que Mauvais Genre est disponible sous forme de podcast depuis le site de Radio France, ce qui signifie qu'on peut l'écouter aux 4 coins du monde. C'est ça, la magie du podcast. Annonçons également la sortie imminente, aux éditions La Talente, d'un nouveau roman de Pierre Bordage, Frère Ewen, premier des 5 volets de la Fraternité du Pancha. La splendide couverture de ce livre est l'œuvre de l'illustrateur suisse Sylvain Demière, lequel n'est autre que le lecteur du 7e épisode d'Utopod, ainsi que l'illustrateur de notre épisode de lancement. Enfin, pour les amateurs de jeux de rôle qui habitent en Suisse romande, il existe un club lausannois du nom de Space Fridge dont s'occupe notamment le sympathique et très science-fictif Boris Bruckler. Pour toutes les nouvelles que nous venons de donner, vous trouverez les adresses internet utiles ainsi que des compléments d'infos sur www.utopod.com. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable fin de semaine et à vous donner rendez-vous très prochainement sur Utopod pour une nouvelle de Claude Aiken, lue par Claude Aiken lui-même. La grande classe, non? Au revoir!
Putain.